Chapitre 16. Assis dans sa vaste et somptueuse chambre d'hôtel, Rick Deckard était occupé à lire les fiches signalétiques des deux androïdes Roy et Irmgard Beatty. Dans les deux cas, elle comprenait des photos prises au téléobjectif, deux tirages flous sur papier couleur 3D, à peine utilisables. La femme, décida-t-il, était séduisante. Pas Roy Beatty. Lui dégageait quelque chose d'inquiétant. Pharmacien sur Mars, lut-il. C'était en tout cas la couverture que l'androïde s'était choisie. En réalité, il avait probablement œuvré comme travailleur manuel, un ouvrier agricole aspirant à quelque chose de mieux. Les androïdes rêvent-ils ? Se demanda Rick. De toute évidence, la réponse est oui. Sans quoi il ne leur arriverait pas de tuer leurs employeurs pour s'enfuir ensuite sur Terre, pour y trouver une vie meilleure sans servitude. Comme Loubalouft pour chanter Don Juan ou les noces au lieu de peiner dans un champ de cailloux sur quelque planète fondamentalement inhabitable. Roy Beatty, l'informa l'affiche, possède une personnalité agressive, affirmée, prétendument autoritaire. Enclin à la métaphysique, cet androïde a été l'instigateur d'une tentative d'évasion en groupe assortie d'une pseudo-justification idéologique, le caractère censément sacré de la vie des androïdes. De plus, cet androïde a dérobé et expérimenté diverses drogues de fusion spirituelle, déclarant, lorsqu'on l'a pris sur le fait, qu'il espérait promouvoir pour les androïdes une expérience de groupe similaire à celle du mercérisme qui, selon lui, demeurait inaccessible à ses semblables. Le compte-rendu avait quelque chose de pathétique. Un androïde insensible, sans pitié, qui espérait prendre part à une expérience qu'un défaut volontaire de fabrication lui interdisait définitivement. Mais Rick avait du mal à éprouver de la sollicitude pour Roy Beatty. D'après les notes de Dave, il se dégageait même de cet androïde particulier quelque chose de repoussant. Après avoir tenté en vain d'intégrer de force la fusion mercérienne, il avait manigancé l'assassinat d'un grand nombre d'êtres humains, puis le périple des 8 andros jusqu'à la Terre. Le groupe de fuyards illégaux se réduisait désormais à 3 membres remarquables qui étaient eux aussi condamnés. Car si Rick ne parvenait pas à les tuer, un autre réussirait. La marche du temps, le cycle de la vie qui se termine ici au dernier crépuscule, avant le silence de la mort. Il percevait dans tout cela un univers en miniature, complet. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement. « Quel vol !» lança Rachel Rosen hors d'haleine en pénétrant dans la pièce. Elle était vêtue d'un long manteau en écailles de poisson qui recouvrait un short et un soutien-gorge assorti. À côté de son grand sac à main ornementé, elle portait un sac en papier qu'elle tendit à Rick. « J'ai acheté une bouteille, du bourbon. » « Jolie la chambre. » Elle consulta sa montre. « Moins d'une heure. J'ai fait vite. » « Le pire des 8 est encore en vie. » fit Rick. « Leur leader. » Il tendit la fiche de renseignement de Roy Beatty dans sa direction. Rachel l'accepta après avoir déposé le sac en papier. Vous avez localisé celui-là ? S'enquit-elle après avoir lu. J'ai un numéro de Connapt, au fin fond de la banlieue, là où traînent peut-être encore quelques spéciaux dégénérés, des têtes de fourmis et de piafs qui y vivent leur semblant de vie. Rachel tendit la main. Voyons les autres ? Deux femmes. Il lui passa les feuilles. L'une concernait Irmgard Beatty, l'autre une androïde se faisant appeler Pris Stratton. « Oh !» fit Rachel après avoir jeté un œil à la dernière fiche. Laissant tomber les feuillets, elle alla à la fenêtre regarder le centre de San Francisco. « Je pense que la dernière va vous causer un choc. Ou peut-être pas. Peut-être que vous n'en avez rien à faire. » Elle avait pâli. Sa voix tremblait, Tout d'un coup, elle était devenue extrêmement nerveuse. « Mais qu'est-ce que vous marmonnez exactement ?» Il récupéra les fiches, les étudia, en quête de ce qui avait bouleversé Rachel. « On va ouvrir le bourbon. » La jeune femme emporta le sac en papier dans la salle de bain, y récupéra deux verres et revint dans la chambre. Elle semblait toujours distraite, hésitante et préoccupée. Il percevait le cours rapide de ses pensées, la transition entre chacune était parfaitement visible sur son visage tendu. « Vous pouvez le faire ?» lui demanda-t-elle. « Faites attention, ça vaut une fortune. Il n'est pas synthétique, c'est un véritable alcool de grain d'avant-guerre. » Après avoir ouvert la bouteille, Rick versa du bourbon dans les deux gobelets. « Dites-moi ce que vous avez. » « Au vidéophone. Vous m'avez dit que si je vous rejoignais ce soir, vous renonceriez aux trois derniers andros. On fera autre chose. Voilà ce que vous avez dit. Et nous voilà. Expliquez-moi ce qui vous a contrarié. » Elle lui fit face d'un air de défi. « Dites-moi ce que nous allons faire au lieu de perdre notre temps en palabres à propos des trois derniers Nexus 6. » Elle déboutonna son manteau, l'emporta jusqu'à la penderie et l'y accrocha. Ce qui donna à Rick sa première occasion d'avoir une vue d'ensemble de la jeune femme. Les proportions de Rachel, remarqua-t-il une fois encore, étaient étranges. Sa lourde masse de cheveux bruns lui faisait une grosse tête, et avec la taille minuscule de ses seins, son corps adoptait une position assez raide, presque juvénile. Mais ses grands yeux, bordés de longs cils maquillés avec recherche, ne pouvaient appartenir qu'à une femme. Toute ressemblance avec une adolescente s'arrêtait là. Rachel avait tendance à faire porter le poids de son corps vers l'avant, ses coudes restaient toujours légèrement pliés quand elle laissait pendre ses bras. La posture du chasseur sur ses gardes, ou peut-être celle d'un Cro-Magnon en phase de persuasion. Elle est de la race des grands chasseurs. Guerre charnue, un ventre plat, de petites fesses, et une poitrine plus petite encore. On avait modelé Rachel sur l'archétype celtique, anachronique et séduisant. De son mini-short s'échappaient deux longues jambes qui avaient quelque chose de neutre, d'asexué, dépourvu de courbes et de rondeurs nubiles. L'impression générale, cependant, restait tout à fait positive, même s'il s'agissait définitivement du corps d'une jeune fille, pas de celui d'une femme. À part ses yeux perspicaces, agités. Il sirota son bourbon. Son goût puissant, cet arôme presque violent, lui était devenu presque étranger, et il avait un certain mal à avaler. Rachel, au contraire, ne semblait éprouver aucune difficulté à boire le sien. Elle s'assit au bord du lit et se mit à lisser la couverture d'un air absent, presque maussade. Rick posa son verre sur la table de nuit et vint s'installer à ses côtés. Le lit s'enfonça sous son poids, forçant Rachel à modifier sa position. Qu'y a-t-il ? Il tendit la main pour s'emparer de la sienne. Elle était froide, osseuse, légèrement humide. Qu'est-ce qui vous contrarie ?
Ce fichu dernier Nexus 6, parvint-elle finalement à énoncer avec effort, est du même modèle que moi.
Baissant les yeux sur le couvre-lit, elle découvrit un fil qu'elle entreprit de rouler en boulette.
Vous n'avez pas remarqué son signalement ?
C'est aussi le mien. Elle se coiffe et s'habille peut-être différemment, peut-être même qu'elle s'est acheté une perruque, mais vous comprendrez ce que je veux dire quand vous la verrez. Elle eut un rire sardonique.
C'est une bonne chose que la Fondation ait reconnu ma nature d'androïde, sans quoi vous seriez probablement devenu fou en posant les yeux sur Pris Stratton. Ou alors, vous l'auriez prise pour moi.
Pourquoi est-ce que ça vous dérange à ce point ?
Merde ! Je serai là quand vous la retirerez.
Peut-être pas. Je ne vais peut-être pas la trouver.
Je connais la psychologie des Nexus 6. C'est la raison de ma présence ici. C'est pour ça que je peux vous aider.
Ils se tairent tous les trois ensemble,
rassemblés autour de celui qui est dérangé, l'andro qui se fait appeler Roy Beatty. C'est lui qui va diriger leur ultime effort défensif. Et ils vont jeter toute leur force dans la bataille. Ses lèvres se tordirent. Mon Dieu.
Déridez-vous ? Prenant son petit menton anguleux dans la paume de sa main, il lui releva la tête pour la forcer à lui faire face.
Je me demande ce qu'on ressent en embrassant un androïde,
songea-t-il. Il s'inclina en avant de quelques centimètres pour déposer un baiser sur ses lèvres sèches, ne provoquant aucune réaction chez Rachel qui demeura impassible, comme si cela la laissait froide. Rick aurait pourtant juré le contraire, à moins qu'il ne prît ses désirs pour des réalités.
« Je regrette de ne pas l'avoir su avant de venir, » reprit Rachel. « Jamais je n'aurais fait le trajet jusqu'ici. Je crois que vous ne comprenez pas ce que vous me demandez. Vous savez ce que je ressens vis-à-vis de cette prise Stratton ?»«
De l'empathie ?»«
Quelque chose comme ça. De l'identification, plus précisément. »« Mon Dieu !» Voilà ce qui va peut-être arriver. Dans la confusion, ce sera moi que vous allez retirer, pas elle. Et elle pourra retourner à Seattle et vivre ma vie. Jamais je ne m'étais senti comme ça auparavant. Nous sommes des machines, embouties à la chaîne comme des capsules de bouteilles. Le fait que j'existe réellement en tant que personne n'est qu'une illusion. Je suis juste un modèle de série.
Elle frissonna. Rick ne put s'empêcher de s'en amuser. La morosité de Rachel avait pris un tour si mièvre. Les fourmis ne ressentent pas ce genre de choses. Et pourtant, elles sont physiquement identiques.
Les fourmis, elles n'ont pas la notion du temps.
Les vrais jumeaux humains, ils s'identifient l'un à l'autre.
J'ai cru comprendre qu'ils avaient un lien empathique, tout à fait spécial.
Elle se leva pour aller chercher la bouteille de bourbon, d'une démarche guère assurée. Une fois son verre rempli, elle en avala le contenu d'une traite, pour ensuite se mettre à vagabonder dans la chambre, sourcils froncés, puis, comme par hasard, revenir s'installer sur le lit, où elle s'allongea et s'étira, enfoncée dans les gros oreillers. Et soupira.
« Oubliez les trois andros. »
Sa voix s'emplit de lassitude.
« Je suis tellement fatiguée. Le voyage, je suppose. Et tout ce que j'ai appris aujourd'hui. J'ai juste envie de dormir. »
Elle ferma les yeux.
« Si je meurs, »
murmura-t-elle.
« Peut-être que je me réveillerai sur une chaîne de fabrication de la Fondation Rosen, dans la peau d'un androïde du même modèle que moi. »
Elle rouvrit les yeux qu'elle fixa sur Descartes avec férocité.
« Vous connaissez la véritable raison de ma venue. Vous savez pourquoi Eldon et les autres Rosen, les humains j'entends, voulaient que je vous rejoigne. »
Pour observer, fit-il. Pour leur raconter en détail ce que les Nexus 6 font pour passer au travers du Voidkampf.
Le Voidkampf et le reste. Tout ce qui leur confère leur spécificité. Ensuite, je fais mon rapport, et la Fondation effectue des modifications nécessaires aux facteurs de croissance présents dans les bains de Zygote. Et voilà le Nexus 7. Et quand celui-là se fera prendre, nous opérerons de nouvelles modifications, jusqu'à ce que nous obtenions un modèle 100% indétectable.
Vous avez déjà entendu parler du test d'Arc Reflex Bonelli?
Nous travaillons également sur les ganglions rachidiens. Un jour, le Bonelli aura disparu dans les brumes vénérables de l'oubli spirituel.
Elle sourit avec une insouciance qui venait contredire ses propos. À ce stade, Rick n'aurait su dire à quel point elle était sérieuse. Un sujet aussi renversant abordé avec une telle légèreté.
Peut-être est-ce un trait d'androïde. Aucune conscience émotionnelle. Aucune compréhension de la signification profonde de ce qu'elle dit. Juste une approche intellectuelle, formelle, creuse, des divers termes de son discours.
Sans compter que Rachel s'était mise à le taquiner.
Imperceptiblement, elle était passée de son auto-apitoiement aux railleries sur le sien.
« Allez-vous faire voir ?» dit-il.
Rachel éclata de rire.
« Je suis ivre. Je ne peux pas vous accompagner. Si vous partez d'ici... »
Elle fit un geste pour le congédier.
« Je vais rester dormir ici, vous me raconterez plus tard ce qui s'est passé. »
« Sauf qu'il n'y aura pas de plus tard, parce que Roy Beatty va me choper. »
« De toute façon, je suis trop ivre pour vous aider pour l'instant. Et puis vous connaissez la vérité désormais. Vous en avez percé la surface irrégulière, glissante. Je suis juste une observatrice. Je n'interviendrai pas pour vous sauver. Quoi qu'il arrive, je n'interviendrai pas. Peu m'importe que Roy Beatty vous descende ou pas, c'est à ma propre vie que je tiens. »
Elle ouvrit de grands yeux ronds.
« Bon Dieu, me voilà empathique à l'égard de moi-même. Vous comprenez, si je me décidais à aller avec vous dans ce Connaught de banlieue en ruine ?»
Elle se mit à jouer avec un bouton de sa chemise. Lentement, de ses doigts agiles, elle entreprit de la déboutonner.
« Je n'ose pas y aller parce que les androïdes n'ont aucune loyauté les uns envers les autres. » Et parce que je sais que cette satanée Pris Stratton me détruira pour prendre ma place. Vous comprenez? Ôtez votre veste.
Pourquoi?
Pour que nous puissions aller au lit.
J'ai acheté une chèvre noire de Nubie, fit-il. Il faut que je retire les trois derniers andros. Il faut que j'en termine avant de pouvoir rentrer chez moi y retrouver ma femme. »
Il se leva, fit le tour du lit en quête de la bouteille de bourbon pour se servir précautionneusement un second verre. Ses mains, remarqua-t-il, tremblaient très légèrement. La fatigue, sans doute.
« Nous sommes tous les deux épuisés, » comprit-il alors. « Beaucoup trop pour pourchasser trois andros, avec le pire des huit qui fait la pluie et le beau temps. »
À se tenir là, il prit soudain conscience que le chef des androïdes lui inspirait incontestablement de la frayeur, une frayeur évidente qu'il avait peu à peu envahie. Tout dépendait de Roy Beatty depuis le début. Jusqu'à présent, Rick avait rencontré et retiré des avatars chaque fois plus dangereux de Beatty. Et voilà, c'était son tour. Cette seule idée emplit le chasseur de primes d'un surcroît de peur, et elle s'emparait de tout son être maintenant qui lui avait laissé franchir le seuil de sa conscience.
« Je ne peux pas y aller sans vous, » dit-il à Rachel. « Je ne suis même pas capable de quitter cette pièce. Polokov est venu me chercher, Garland aussi, ou tout comme.
Et vous croyez que Roy Beatty va en faire autant ?»
Après avoir posé son verre vide, elle se pencha en avant, passa ses bras dans son dos et dégrafa son soutien-gorge. Elle le fit glisser avec agilité, puis se redressa titubante, ce qui la fit sourire.
« J'ai dans mon sac un mécanisme fabriqué dans notre usine automatique de Mars à utiliser en cas d'urgence. »
Elle grimaça. « Un... bidule de sécurité quand on contrôle les andros au sortir de la chaîne de fabrication.
Sortez-le. Ça ressemble à une huître, vous allez voir. »
Il entreprit de fouiller son sac. À l'instar d'une femme humaine, Rachel y avait fourré à peu près tous les objets imaginables, ce qui valut au chasseur de primes une fouille interminable. Dans l'intervalle, Rachel avait ôté ses bottes d'un coup de pied pour parfaire son effeuillage. En équilibre sur un pied, elle attrapa le morceau de tissu du bout de l'orteil et l'envoya balader à travers la pièce. Puis, elle bondit sur le lit, roula sur elle-même pour aller récupérer son verre, qu'elle fit accidentellement tomber sur la moquette dans le mouvement.
« Merde !»
et de se remettre sur pied en chancelant, pour rester un moment là à regarder Rick s'acharner sur le contenu de son sac uniquement vêtue de son slip. Enfin, après mûre réflexion, elle écarta les couvertures, se glissa dans le lit et les ramena sur elle.
« C'est ça ?»
Il leva une sphère métallique munie d'un bouton poussoir.
« Ça fait tomber les androïdes en catalepsie, » dit Rachel, les yeux clos, « pour quelques secondes, en suspendant leur respiration. » La vôtre aussi, d'ailleurs, mais les humains peuvent continuer à fonctionner sans respirer. Transpirer pendant 2 ou 3 minutes, alors que le pneumogastrique d'un andro, je sais.
Il se redressa.
Le système nerveux autonome des androïdes n'a pas la même souplesse d'adaptation que le nôtre. Mais vous dites que ça ne marche pas plus de 5 ou 6 secondes.
Suffisamment longtemps.
Murmura Rachel,
pour vous sauver la vie. Vous voyez ?
Elle se cambra.
Si Roy Beatty se pointe ici, vous aurez ceci entre les mains et vous n'aurez qu'à presser le bouton. Et pendant qu'il sera immobilisé, le sang privé d'oxygène et ses cellules cérébrales mises à mal, vous pourrez le tuer avec votre laser.
« Vous avez un laser, » fit-il dans votre sac.
« C'est un faux. »« Les androïdes ?»
Elle bâilla, les yeux de nouveau clos.
« N'ont pas le droit d'avoir un laser sur eux. »
Il s'approcha du lit. Au prix de maintes contorsions, Rachel parvint enfin à rouler sur le ventre, le visage enfoui sous la blancheur des draps.
Voilà un beau lit propre, noble et virginal, déclara-t-elle, seule des filles nobles et propres qui.
Elle réfléchit.
Les androïdes ne peuvent pas porter d'enfants, finit-elle par dire. Est-ce une perte?
Il finit de la déshabiller, exposant la froide blancheur de sa chute de rein.
« Est-ce une perte ?»
répéta-t-elle.
« Je l'ignore. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un enfant ? Et qu'est-ce que ça fait de naître, d'ailleurs ? Nous ne naissons pas. Nous ne grandissons pas. Au lieu de mourir de vieillesse ou de maladie, nous nous usons comme des fourmis. Des fourmis. Voilà ce que nous sommes. Pas vous, moi, je veux dire. Des machines réflexes chitineuses qui ne sont pas vraiment vivantes.
Elle tourna la tête de côté et lança d'une voix forte.
Je ne suis pas vivante. Ce n'est pas avec une femme que vous allez coucher. Ne soyez pas déçus, d'accord?
Vous avez déjà fait l'amour avec un androïde?
« Non, »
fit-il en se débarrassant de sa chemise et de sa cravate.
« D'après ce qu'on dit, je crois que c'est assez convaincant dès lors qu'on n'y pense pas trop. Dans le cas contraire, si vous pensez à ce que vous êtes en train de faire, vous ne pourrez pas continuer, pour des raisons... physiologiques. »
Il se pencha pour embrasser son épaule nue.
« Merci, Rick. »
dit-elle dans un souffle.
« Mais n'oubliez pas. Ne pensez pas. Contentez-vous d'agir. Ne vous interrompez pas. Ne commencez pas à philosopher parce que c'est sinistre d'un point de vue philosophique. Pour nous deux. »
J'ai toujours l'intention de trouver Roy Beatty ensuite. Et j'ai toujours besoin de vous pour ça. Je sais que le laser dans votre sac est...
Vous pensez que je vais retirer un de vos andros pour vous?
Je pense qu'en dépit de ce que vous avez dit, vous allez m'aider autant que vous le pourrez, sans quoi vous ne seriez pas allongé dans ce lit.
Je vous aime, dit Rachel. Si en entrant dans une pièce, je tombais sur un sofa recouvert de votre peau, je ferais un excellent score au Voight-Kampf.
Ce soir, à un moment ou à un autre,
songea-t-il alors qu'il éteignait la liseuse du lit.
je vais retirer un Nexus 6, qui est l'image exacte de cette fille nue. Dieu du ciel, Phil Resch avait vu juste. D'abord couché avec elle, puis la tuer.
« Je ne peux pas faire ça !» dit-il en s'enfuyant du lit.
« Dommage !»
La voix de Rachel tremblait.
« Ça n'a rien à voir avec vous. C'est à cause de Pris Stratton, de ce que je dois lui faire.
Alors que moi je me moque de Pris Stratton. Écoutez !»
Elle battit des membres dans le lit pour se redresser. Rick distinguait à peine dans l'obscurité sa mince silhouette presque dépourvue de poitrine.
« Couchez avec moi, et je retirerai Pris Stratton, d'accord ? Parce que moi, je ne peux pas supporter d'en arriver là et de... »
« Merci. »
Il sentait sa reconnaissance, sans aucun doute due au Bourbon, monter en lui, lui serrer la gorge.
« Deux. Je n'en ai donc plus que deux. » à retirer. Juste les Beatty. Rachel va-t-elle vraiment le faire? Je pense que oui. Les androïdes pensent et fonctionnent de cette manière.
Et pourtant, jamais il n'avait vécu quoi que ce fût d'approchant.
« Eh merde, venez dans ce lit !»
lui ordonna Rachel. Il obtempéra.